mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, émission ce soir animée par l'équipe des altermondialistes d'attaque et les journalistes du PIAF.
Et nous recevons ce soir Joan Cortinas des Indignés Espagnols. Mais nous allons commencer l'émission, comme d'habitude, par les rubriques d'actualité de Jean-Marc, qui va nous parler de la rentrée scolaire.
Alors, la rentrée scolaire, on a beaucoup entendu parler du prix du caddie et du prix de la rentrée scolaire, de l'allocation de rentrée scolaire, mais beaucoup moins, hélas, des conditions réelles et catastrophiques de la rentrée scolaire de cette année. La rentrée scolaire est marquée encore par Châtel, le ministre de Sarkozy, qui pendant des années s'est employé à détruire l'éducation nationale, plus qu'à la gérer. Mais malheureusement, si cette rentrée Châtel n'a pas pu être évitée totalement par le nouveau ministre Payon, qui fait de beaux discours pleins d'entrain républicain et de bonne volonté éducative, la réalité est beaucoup moins florissante. On voit partout en France, dans le primaire et dans le secondaire, des effectifs en hausse catastrophique dans toutes les classes, ce qui s'explique par la diminution non moins catastrophique les dernières années des postes, 80 000 postes supprimés en 5 ans, et ce n'est pas l'annonce de 1000 petits postes, dont seulement une minorité de postes enseignants par Payon pendant l'été, qui a pu modifier et inverser la tendance. On pourrait se dire, on plie le dos pendant un an, le temps que le gouvernement puisse faire un nouveau budget et faire une vraie politique de l'éducation. Ça, c'est si on est très optimiste. En fait, quand on regarde au-delà des déclarations du ministre, la réalité, eh bien, le tableau est sombre, non seulement pour cette année, mais pour les années suivantes. En effet, que se passe-t-il? On regarde le budget 2013 et on s'aperçoit qu'il n'y a rien de suffisant pour changer la politique de l'éducation en France. Il n'y a pas d'augmentation du budget de l'éducation qui permettrait de réembaucher et de recréer les postes supprimés les 5 dernières années. Donc, pas d'espoir pour l'année 2013. Et les annonces du gouvernement sont fallacieuses. On annonce 21 000 postes. En fait, ça ne changera absolument rien, puisque 21 000 postes, c'est exactement, simplement, le remplacement des départs à la retraite. Donc, pour la rentrée 2013, ce sera une nouvelle année zéro, dans les mêmes conditions catastrophiques que cette année. Donc, Châtel à bon dos pour cette année, mais pour l'année prochaine, ce sera bien Payon et Hollande qui seront aux commandes et qui n'auront rien changé. Et les choses sont encore pires si on regarde sur le moyen terme, car au-delà du budget 2013. On ne peut pas encore préjuger du budget 2014, bien évidemment, mais se profile aussi le traité européen que Hollande se prépare à faire voter en catimini par les assemblées.
Et dont nous reparlerons.
Et dont nous reparlerons au cours de l'émission. Or, si ce traité venait à être voté par le Parlement et mis en application, ça veut dire que le gouvernement n'aurait plus aucune marge budgétaire et que non seulement cette rentrée 2012 serait une catastrophe, la rentrée 2013 aussi, mais 2014, 2015, 2016, puisqu'il n'y aurait aucun moyen de dégager les marges financières pour améliorer la situation. Et ce qui est valable malheureusement dans l'éducation l'est également dans tous les services publics et par exemple à l'hôpital qui est en état de mort clinique depuis quelques années.
Il gère la pénurie. Voyons, c'est l'austérité aujourd'hui.
Oui, et les élèves le comprennent bien, puisque dans un certain nombre de salles de classe, il n'y a plus assez de chaises pour rentrer les effectifs supplémentaires.
Et nous préparons l'avenir de nos générations futures dans ces classes, voyons.
Oui, enfin, faut pas s'en faire, parce qu'avec le travail des laboratoires qui tue de plus en plus de gens, ça va diminuer les effectifs.
Comme quoi tout s'arrange. Alors, on va continuer à parler du PS, mais on promet qu'on va s'arrêter là. Mais Boris va nous faire une petite chronique pour nous parler de nos amis socialistes.
Alors, voilà. Penser le changement ou changer le pansement. Il semble que le Parti Socialiste ait depuis longtemps choisi la deuxième option de la contrepèterie. Changer le pansement. Comme le capitaine Haddock qui n'arrive pas à décoller le sparadrap de son corps. Pourtant, à ma connaissance, Haddock, bien que capitaine, n'a jamais fait de pédalo. Mais il semblerait que, selon le beau mot de Mélenchon, Hollande s'y exerce encore. Au pédalo, peut-être pas, mais au sparadrap. PS, à la base de notre culture gréco-latine, ça veut dire post-scriptum, qui signifie en latin ce qu'on ajoute après la signature. En gros, j'ai signé, mais j'ajoute des remarques, des clauses, des dessins, des tags, des obs ou n'importe quoi d'autre après ce que j'ai validé par ma signature. Dans la France contemporaine, il s'agit d'un parti politique qui a depuis ce printemps tous les pouvoirs. Alors il sort d'où ce PS ? Selon Wikipédia, le PS trouve son origine dans les courants de pensée socialistes. Il prend la suite de la section française de l'Internationale socialiste, ouvrière, SFIO, fondée en 1905, La création du Parti Socialiste remonte à 1969, lors du congrès d'Alfortville, lors duquel Alain Savary devient premier secrétaire. Pourtant, selon la même source, quand on cherche SFIO, on trouve la section française de l'Internationale Socialiste Ouvrière, SFIO, est un parti politique socialiste français qui existe sous ce nom de 1905 à 1969. En 69, elle devient un parti socialiste lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux. Alors, je pinaille peut-être, mais Alfortville et Issy-les-Moulineaux, c'est pas au même endroit. Je tape 3615 vérif afin de vérifier la santé de l'entreprise, mais merde, le Minitel, ça ne marche plus. Du coup, je convoque le professeur Tournesol. Elle est où la gauche dans cette histoire ? Un peu plus à l'ouest ? La réponse est évasive. Merde, je me replonge dans mes manuels de sciences politiques pour les nuls. La gauche est la place prise, au sens propre, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale par les députés radicaux après la Révolution. Le mot socialisme apparaît au début du 19e siècle et désigne un courant politique qui prône la répartition des richesses et critique la transformation sociale découlant de la Révolution industrielle. Ok. Et le parti faufialiste là-dedans. On en est où ? Je prends mes manches, à mon cou, j'enquête. J'appelle Bernard, un ancien vendeur de tapis proche du milieu. Merde, il a changé d'opérateur. J'essaie de joindre Jacques, un vieux tonton qui s'y connaît, mais il a botté en culture. J'appelle Besson, un renégat, me disant que peut-être il aurait plus à m'apprendre que les purs, mais son attaché de presse me dit qu'il termine un puzzle. J'encaisse, je dis rien. Du coup, je tape au sommet. Le président, François Hollande. Lui-même, l'autre pays du socialisme, la normalitude incarnée. Il s'agit du fait spirituel d'un autre François, mais qui ne s'est compté que jusqu'à 60. Presque deux fois moins que son tonton, qui avait fait à l'époque...
120 propositions.
120 propositions. 110 ? 120 ? Je ne sais plus.
Ah, deux fois 60, ça fait 120.
Merde. Et qui a des lunettes déformantes qui lui ont été fielleusement données par son ex, pour qu'il s'égare. Je parle d'optique politique, bien sûr. C'est un véritable professionnel, mais finalement pas du socialisme, ni de l'orientation. Tout petit, il paraît qu'il aurait été viré de chez les scouts pour avoir fait choir de chagrin la jeune louve qui dirigeait la colonie, et pour avoir ensuite perdu sa troupe en forêt champenoise. Selon la FFGF, Fédération Française de Gobage de Flamby, il aurait été champion du monde de la discipline. Mais c'est une époque où il ne pensait pas encore avoir un avenir politique de premier plan. Plus tard, son concurrent direct au sein du parti se releva être un honnête homme doté d'une énorme quéquette, si grande qu'il ne savait qu'en faire sauf s'en servir à tout va. Mais ce Dominique, Nick, il s'agit d'un faux nom bien sûr, puisque la loi nous empêche de citer le sien, s'est fait coincer dans un piège à souris. Telles sont les dures lois de la politique. Du coup, Champs-Élysées, cet homme est devenu président. Et c'est là que les choses se corsent. Regardons le programme mis en œuvre par notre président normal pour les grands dossiers. Contre le chômage, emploi d'avenir. Dans le secteur de l'énergie, statu quo atomique. Ah, on me signale que ce matin, il aurait déclaré que la centrale de Fessenheim, la plus vieille de France, serait fermée à la fin de l'année 2016. Petit début. Europe, on valide l'oukase mercosiste en matière de lutte contre la spéculation financière. Tintin. En rapport d'évasion fiscale, merci Bernard. Quant aux paradis fiscaux, c'est le bruit des mouches. Il est encore un peu tôt pour juger ce gouvernement, mais si personne ne lui colle au basque, il est à craindre qu'il ne se passe pas grand-chose. Une bonne gestion pépère en évitant la casse. La droite au pouvoir, dans le quinquennat précédent, s'est clairement positionnée à la droite de la droite. L'extrême droite progresse partout en Europe. La gauche n'a jamais été aussi forte en France et n'a jamais eu autant de pouvoir. Présidence, assemblée, région, département et les plus grandes villes du pays. On a eu la gauche caviar, on a pour l'instant la gauche tarama. La balle au centre, et on compte les points. Alors, pour détourner le slogan, le changement, c'est pour quand ?
Avec le petit topo de rentrée de Jean-Marc, on a l'impression, d'après ton calcul, que la rentrée, ça sera pour la rentrée 2014 au mieux, et avec les potentialités de signature de traité, ça sera jamais.
Jamais, ou très très tard, avec une rentrée complètement privatisée. Ce que la droite a rêvé, la gauche va peut-être le faire.
Alors le changement en France, on le voit très négatif finalement. Hein. On se demande si le changement, c'est pas la crise qui va nous l'amener. Plus de pauvreté, plus de difficultés, plus d'austérité, on le voit tous les jours. Faut pas aller très loin pour se rendre compte que l'austérité, c'est le pain quotidien des Espagnols. Et c'est pour ça que nous recevons Joan Cortinas, qui est venu au sens de l'actualité espagnole et pour représenter un peu le mouvement indigné dont on a entendu parler en large l'an dernier, mais qui est toujours présent, même si les médias français ont un peu tendance à passer ce genre d'actualité derrière la Syrie, qui fait un beau rideau de fumée, on en parlera tout à l'heure. Alors, Joan Cortinas, bonjour.
Bonjour.
Le mouvement des indignés, l'actualité, c'est le 25 septembre. Grande manifestation en Espagne, qui aura des retentissements en France aussi. Mmh. Et pour se mettre dans l'ambiance, nous allons écouter... en remontant le temps, les manifestations en Espagne des années 30 à las barricadas.
Negras, solitas, agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos
a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confédération.
Bonsoir, vous êtes sur FPP 106.3, émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des militants d'attaque et les journalistes du PIAF.
Et Joan Cortinas, participant aux manifestations et au mouvement des indignados, le mouvement des indignés. En Espagne.
Ouais.
Alors l'actualité, on a dit, c'est le 25 septembre, on attend beaucoup de monde. Dans les différentes villes d'Espagne.
Mmh.
Et qu'est-ce qui motive encore les Espagnols à être dans la rue ce 25 septembre ?
Qu'est-ce qui motive les Espagnols ? Ils sont très motivés, donc à mon avis, ils ont beaucoup de choses. Donc on va essayer de peut-être les détailler doucement. Donc les 25 septembre, en fait, c'est un truc un peu mystérieux. C'est quelque chose qui a commencé à circuler par Internet après l'annonce de Rajoy, donc le président espagnol, du 7 juillet dernier, où il a annoncé, contrairement à ce qu'il avait justement publié dans son programme électoral qu'il a fait gagner les élections justement présidentielles en Espagne l'année dernière, le 7 juillet, il annonce tout un tas de mesures qui ont comme objectif de réduire, d'économiser, hein, comme ils disent, avec les langages qu'on connaît, d'économiser 60 milliards d'euros de l'argent public, justement, parce que, selon lui, il ne veut pas les faire, c'est les mots qu'il a employés, il ne veut pas les faire, mais l'Europe l'oblige. Dans cette annonce-là, donc, il contredit beaucoup des choses qui étaient dans son programme. Par exemple, la TVA. Il avait juré et perjuré qu'il allait jamais augmenter la TVA, qui était justement une hypothèse potentielle du Parti Socialiste qui était au pouvoir avant le gouvernement de Rajoy, qui est un parti de droite, l'équivalent de l'UMP français. Quelques mois après, de sa victoire électorale, il annonce qu'il va augmenter la TVA. Donc, première, perjure électorale, hein, contradiction démocratique, mensonge, tout simplement. Non seulement il va augmenter la TVA, et c'est très important parce qu'il augmente jusqu'au 21% sur tous les produits, sauf ce qu'ils appellent les produits de base, c'est-à-dire la nourriture. Le reste va augmenter, notamment, et là où c'est beaucoup de gens qui ont commencé à en parler, notamment dans les secteurs de la culture, qui était un secteur considéré donc un secteur prioritaire, donc qui avait une TVA très basse, du 7-8%, et qui passe à 21%. Tout d'un coup, avec toutes les implications que ça a, c'est-à-dire beaucoup de petites salles, des cinémas, théâtres, etc., qui craignent justement la fermeture et mettre la clé sous la porte. Avec cette annonce-là du 7 juillet, il y a une vidéo qui apparaît sur YouTube. Vous savez qu'un mouvement des indignés est très puissant sur ces médias-là. Sauf que c'est pas le mouvement des indignés cette fois-ci. C'est un collectif qui s'appelle MPE, Debout, qui annonce une vidéo très bien faite avec des annonces d'Anonymous, avec des signes d'Anonymous, on pouvait supposer que c'était Anonymous, où il réclame que les 25 septembre, juste parce que l'annonce de Rajoy est justement un mensonge, en tout cas il trahit les promesses électorales qu'il avait fait monter au pouvoir, donc du coup c'est pas légitime en tant que président de l'Espagne, ils annoncent qu'ils vont occuper les congrès. Hein, c'est ça les mots d'ordre, c'est on va occuper les congrès les 25 septembre et on exige plusieurs choses. Je vais peut-être passer à citer deux ou trois. Donc on exige un revenu universel pour tout le monde. On exige la dissolution du Parlement espagnol et on va passer à une étape constituante. C'est des revendications qui ont circulé dans les mouvements des indignés et autres, évidemment. mais qui sont proposés pour le 25 septembre. Les problèmes de cet appel-là, c'est que personne ne sait d'où ça vient. Donc les mouvements MPA, c'est un mouvement qui est inconnu pour tout le monde. Donc ça commence, ça circule très vite. En deux jours, la vidéo a plus d'un million de spectateurs, je sais pas comment on dit sur YouTube, de visionnage. Et les bruits commencent au sein des Agniers et d'autres mouvements démocratiques pour dire c'est quoi cet appel. Parce que comme c'est passé dans d'autres endroits et malheureusement c'est pas notre faute, il y a les mouvements d'extrême droite, des mouvements d'extrême droite et des partis d'extrême droite qui ont des propositions qui des fois peuvent être interprétées justement ou qui rejoignent certaines positions des partis de gauche. Donc un des dangers justement des politiques européennes qui sont mises en place actuellement. Donc les mouvements des indignés se distancient de cet appel du 25 septembre avant l'été. Après l'été, pendant l'été, il y a des discussions, etc. Et les gens qui ont lancé la vidéo annoncent qu'ils sont pas d'extrême droite, qu'effectivement c'est une initiative plutôt petite, c'est-à-dire un petit groupe des gens. Et donc ils sont ouverts justement à que cette initiative soit complètement. Il y a plein de gens qui rejoignent l'initiative. Donc les mouvements des indignés qui étaient distants par rapport à cette initiative décident de s'y impliquer, mais avec plusieurs conditions. Donc les conditions des bases indignées, c'est que ça soit démocratique. C'est-à-dire que ça soit une journée organisée par les citoyens, dans les assemblées citoyennes qui ont lieu dans l'espace public, qui sont ouvertes à tout le monde et qui sont soumises au consensus. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc pendant l'été, à la fin du mois d'août, il y a eu plusieurs assemblées tout au long de l'Espagne. On parlera après de l'importance du mouvement des indignés en Espagne, peut-être par rapport à la France. Et donc, les mouvements des indignés décident d'y aller en changeant plusieurs choses. Les mots d'ordre n'est plus « occupons les congrès », entre autres, parce que le gouvernement des droites qui est au pouvoir en Espagne a déjà annoncé que c'était un appel illégal et qu'il allait tout faire, donc employer tous les moyens qu'il avait sous la main, inclus l'armée, pour éviter qu'il y ait justement une occupation du congrès. C'est-à-dire, ces mots d'ordre « occupons les congrès » étaient tout de suite stigmatisés comme étant un mouvement antidémocratique. Donc les assemblées citoyennes des indignés ont décidé justement de ne pas appeler ça « occupons les congrès », mais « entourons les congrès ». Donc l'objectif n'est plus d'entrer dans les congrès, mais d'encercler les congrès et d'y rester de façon indéfinie jusqu'à qu'il y aura justement tout un tas de décisions qui ont tout un tas de revendications démocratiques qui sont écoutées. La principale, bien évidemment, étant que les mesures d'austérité prônées par le gouvernement de Rajoy n'étaient pas dans son programme. Donc, le 25 septembre est en train encore de s'organiser. On ne sait pas combien de monde il y aura, mais on pense qu'il peut y avoir beaucoup de monde, entre autres parce que les annonces de Rajoy du 7 juillet ont mis une grande partie des fonctionnaires dans la rue. Parce qu'il annonçait, entre autres, bien évidemment, qu'il allait non seulement geler les salaires des fonctionnaires, mais aussi il allait les baisser dans les années qui venaient. Et en plus, il n'allait pas créer des nouveaux postes des fonctionnaires. Donc, les 15 septembre, pour anticiper les 25 septembre, les syndicats majoritaires et d'autres groupes démocratiques appellent à une grande mobilisation, aussi les 15 septembre, dont les pompiers, les infirmiers, les personnels hospitaliers, les fonctionnaires de l'État, etc. Et donc, ils sont aussi prêts à rejoindre le mouvement du 25 septembre.
Donc on voit que les indignés en Espagne, c'est un mouvement fédérateur, finalement, de beaucoup aujourd'hui de protestations. Et ça fait déjà pratiquement un an et demi qu'on en parle en France en tout cas, et on a vu naître ce mouvement à travers l'Europe. Alors tu viens d'en parler avec cet exemple du 25 septembre, mais les fondamentaux, c'est tout le monde discute, tout le monde se rassemble dans sa ville, sur une place, et c'est la démocratie au quotidien.
Les fondamentaux, je pense, bon, je peux essayer de les rappeler. Donc c'est un mouvement qui commence en Espagne en mai 2011. En plein gouvernement socialiste, hein, comme disait notre ami Boris, c'était en plein pouvoir socialiste, sauf que c'était un parti socialiste qui était au pouvoir élu en 2008, donc début de la crise, et qui a entamé tout un tas de mesures qui, à nouveau, n'étaient pas du tout dans les programmes qu'il avait fait élire en tant que gouvernement. Donc justement, c'est un mouvement qui sort dans la rue. On va pas analyser les raisons sociologiques, mais ce qu'ils revendiquent, c'est justement, on n'a pas de démocratie parce que ce qu'on a élu, donc en faisant confiance à ce qu'ils écrivaient, ils l'ont jamais mis en place. Au contraire, ils ont fait le contraire de ce qu'ils disaient. Donc c'est un mouvement qui, à la base, justement, il demande une démocratie réelle. Il y a, c'est la base du mouvement, les indignés, je fais une petite parenthèse, je sais pas pourquoi il y a eu cet amalgame avec les livres de Selle. Et donc en disant qu'on était, qu'on nous appelait les indignés, parce que le mouvement est né avec le, sous le nom de Democracia Realia. Il ne s'est jamais auto-appelé indigné dès le début. Ça a été les médias qui ont repris, après des gens qui étaient sur les places, qui s'appelaient « je suis indigné », etc. Mais c'était la base, et même les livres des ciels qui étaient un peu connus en Espagne, il n'était pas forcément à la base de ces mouvements. Que je répète, c'est appelé Democracia Realia. Donc ces mouvements, ils revendiquent donc une Democracia Realia. Ça veut dire que d'abord, les partis traditionnels qu'on connaît, les bipartismes, je pense que vous appelez ça en français, c'est pas nouveau, c'est pas qu'en France, dans tous les pays européens occidentaux, on a deux partis qui gouvernent depuis 40, 50, 60 ans. C'est pas les Mexiques, mais c'est pas loin. C'est-à-dire, c'est des partis qui se partagent les pouvoirs. Donc, dans ces partages du pouvoir, c'est les grands débats depuis un moment. Il n'y a pas de droite et de gauche. Pourquoi il n'y a pas de droite et de gauche? Parce qu'ils proposent justement des choses qui se ressemblent au fond des comptes beaucoup. Hein, c'est notamment au niveau économique, on les voit avec la crise. Donc c'est un mouvement qui demande cette démocratie réalia et qui veut la reconstruire à la base, c'est-à-dire on ne croit plus dans les machines partis, dans les organisations partisanes majoritaires, hein, telles qu'on les connaît, avec une hiérarchie, avec des intérêts qui guident, avec des intérêts partisans qui guident les décisions qui sont prises, au lieu des intérêts qui concernent les citoyens, etc. Donc c'est un mouvement qui veut refonder en quelque sorte, ou reprendre, parce que ce n'est pas nouveau, hein, des pratiques assembléaires, et justement que les décisions soient prises à partir de ce que les citoyens décident par eux-mêmes en assemblée.
Alors justement, le quotidien, parce que c'est des grands principes, en France, on imagine que toute la République, toute la fonction de nos parlementaires, c'est justement de nous représenter, et le quotidien des indignés, c'est pas du tout la représentativité, c'est un autre mode de fonctionnement. Alors comment se sont passés ces mois où les Espagnols indignés, ou Democracia Real, étaient dans la rue pour discuter entre eux et construire le mouvement?
Alors, je vais peut-être parler d'exemples concrets, sans tomber évidemment dans l'idéalisme. Comment ils se sont passés? Ils se sont passés dans un moment, au mois de mai 2011, je répète, hein, on avait un gouvernement socialiste qui prenait des mesures très antisociales. Et donc, ils se sont passés, avec 2000, j'ai vu à Plaça Catalunya, on est 3000 personnes. Avec des assemblées qui étaient difficiles à organiser, parce que comme tous les gens qui ont connu des assemblées populaires générales, 3000 personnes, ça fait beaucoup de personnes, avec des gens qui ne se connaissaient pas avant, qui n'étaient pas organisés auparavant, et qui pourtant s'est retrouvés à prendre des décisions communes. Donc c'était les bordels, hein, c'était les bordels. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? C'était un apprentissage collectif. Il y avait des gens qui avaient effectivement un capital politique qui permettait d'organiser la chose, et les choses se sont organisées petit à petit jusqu'au moment, au bout de deux semaines, trois semaines, hein, les assemblées générales, on avait adopté tous les codes pour dire quand on était d'accord, pas d'accord. On avait adopté aussi des décisions prises par rapport à quel pourcentage s'arrête les consensus, parce que tu peux pas donner les pouvoirs à deux personnes qui bloquent 3000 personnes pour prendre une décision, etc. Donc tout ça s'est mis en place et ça fonctionnait en assemblée générale, et ça prenait justement des décisions quotidiennes sur des thèmes qui étaient décidés auparavant par les secrétariats justement de l'Assemblée. Et un autre principe, c'est qu'évidemment aucune fonction n'était attribuée, c'est-à-dire que les fonctions tournaient hebdomadairement ou de façon quotidienne. Il y avait des secrétaires, il y avait des organisateurs de l'Assemblée, mais ça tournait en permanence.
Alors ça, c'est au niveau local d'une petite place. Après, il faut construire un mouvement au niveau d'un pays, voire plus.
On parle aussi beaucoup de la différence entre l'Espagne et la France, avec une Espagne où le mouvement des indignés, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est très fort, et en France où il a plus de mal à démarrer. Mais c'est peut-être aussi parce qu'en Espagne, il y a une tradition d'autogestion qui a existé avant la guerre d'Espagne, pendant la guerre d'Espagne, et qui a même réussi à perdurer à travers le franquisme dans certaines entreprises et certaines communautés.
Je sais pas, parce que peut-être, j'ai pas d'explication, parce que moi j'ai jamais été dans les trucs d'autogestion, et pourtant j'y participais, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut-être dans les je peux pas te dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on apprenait dans les places. Je sais pas si c'est parce qu'on a un passé génétiquement modifié ou quelque chose, mais à mon avis c'était juste comme ça, et c'est parce que tout le monde est inclus dans les décisions. Donc tu demandais justement, ça permet de construire un mouvement. Je t'avoue que les gens sont sortis, ils sont allés dans les places, c'est-à-dire ils ont occupé plus de 180 villes en Espagne, c'est-à-dire la plupart du territoire espagnol, et ils se sont organisés par place. Comment ça va se coordonner, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui a été justement spontané, qui a adopté les principes des bases et qui, au jour le jour, a commencé à se construire justement sur les places. Alors, si tu veux savoir comment ils se coordonnent actuellement, donc les gens sont sortis des places et la décision qui a été prise, c'est de s'implanter dans les quartiers. Donc, prendre des décisions en assemblée des quartiers où les problèmes, justement, c'est les voisins de chaque quartier qui les gèrent. Donc, il y a des décisions qui sont prises parce qu'elles concernent qu'un quartier ou les quartiers X ou Y, et c'est des actions qui sont décidées à ces niveaux-là, donc avec la municipalité X ou Y. Après les actions nationales, il y a eu 7 ou 8 revendications qui ont été consensuées dans les places, c'est-à-dire qu'il y a eu chaque quartier, chaque assemblée et quartier a décidé sur quels étaient les thèmes transversaux qui touchaient justement les territoires, au-delà de leurs spécificités locales. À partir de là, on a remonté au niveau autonomique, c'est-à-dire au niveau régional, et à partir de là, on est monté au niveau national. À partir de toutes ces remontées d'informations, il y a eu 7 ou 8 revendications, je ne m'en souviens pas exactement, qui ont été décidées, et c'est les 7 ou 8 points sur lesquels les indignés espagnols travaillent. Donc, démocracia realia, c'est-à-dire en Espagne, c'est en finir avec les corruptions, c'est-à-dire tous les hommes politiques qui sont impliqués dans des procès de corruption, ils ne peuvent plus se présenter dans aucune des élections. Deuxième revendication concerne justement ce que je disais tout à l'heure, les revenus universels, c'est-à-dire il faut répartir les travails, il faut qu'on arrive aussi à donner un revenu à tous les citoyens par le fait de l'être. Et puis il y a 4 ou 5 revendications que je ne pourrais pas te détailler comme ça des mémoires.
Alors le mouvement des indignés existe aussi en France, un peu partout en Europe. Et la prochaine date de coordination, c'est en octobre, c'est bientôt là, le 13.
C'est le 13 octobre. C'est le 13 octobre. On a, comme vous le savez bien, il y a une mobilisation européenne contre la dette et les politiques d'austérité, organisée à travers une plateforme de coordination qui s'appelle ICANN, qui est la coordination internationale des mouvements, des collectifs pour un audit de la dette. Et donc, le 30 septembre, il y a une première action, justement, qui est lancée par plein d'organisations et mouvements démocratiques, qui, justement, revendiquent, qui a comme objet les pactes budgétaires, peut-être on va en parler après, donc les traités européens, qui va être ratifié par la France si les choses vont comme elles s'annoncent. Et donc, du coup, c'est un mouvement qui commence les 30, mais c'est juste le début de quelque chose qui va s'étaler, je pense, une grande partie de l'hiver. Et donc, les indignés, le 13 octobre, ont la journée internationale des mobilisations indignées, et dont le thème central est la dette et les politiques d'austérité. Donc, on est ensemble, évidemment, avec cette journée du 30 septembre, et puis on va se mobiliser le 13 octobre avec d'autres organisations.
Alors, des promesses, on en entend beaucoup, beaucoup. Alors, voici une promesse beaucoup plus agréable que les autres. C'est la promesse faite aux mains de Zebda.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des militants d'attaque et des journalistes du PIAF.
Et nous continuons sur l'austérité avec Gaël qui va nous parler des banques vues d'Espagne.
Oui, je vais vous raconter l'histoire d'une banque espagnole qui résume finalement l'histoire de toutes les banques européennes dans la crise financière actuelle. Cette banque, c'est la BFA Bankia qui est née fin 2010. Par la fusion de 7 caisses d'épargne espagnoles qui étaient lourdement touchées par l'éclatement de la bulle immobilière. Et l'idée de cette fusion, c'est le principe du « too big to fail », c'est-à-dire « trop gros pour tomber ». L'idée, c'est qu'une petite banque peut faire faillite sans susciter trop d'émoi, tandis que si une grande banque tombe, bien le choc serait tel que l'État se précipite à sa rescousse. Les 7 banques ont rassemblé tous leurs actifs pourris, c'est-à-dire principalement des prêts immobiliers sans grand espoir de remboursement, dans la maison mère, BFA, et ont créé une filiale, Bankia, qui elle était vierge de créances pourries et pouvait attirer les investisseurs sur les marchés. Dès sa création, à la fin 2010, BFA a bénéficié d'un prêt de 4,4 milliards d'euros de l'État espagnol, mais ça ne l'a pas empêché l'année suivante de perdre 3,3 milliards. Alors rassurez-vous, tout le monde n'était pas perdant, puisque les dirigeants se sont octroyés des salaires en millions d'euros. En mai 2012, Bankia avait perdu 37% de sa valeur boursière en 10 mois. Et alors, le nouveau patron de BFA a demandé à l'État de nationaliser le groupe BFA. Et oui, parfois, les banquiers aiment le socialisme, surtout quand ça permet de socialiser les pertes. Et en l'occurrence, cette nationalisation a permis à l'État espagnol d'injecter 19 milliards supplémentaires dans BFA, c'est-à-dire la plus grande opération de sauvetage de banque en Espagne. Et vous allez me dire, comment l'Espagne fait pour financer de telles largesses alors qu'elle est en crise ? Alors, il faut savoir que l'Espagne ne peut pas emprunter directement à la Banque Centrale Européenne. D'après les traités européens, elle n'a pas le droit de prêter aux États. Donc l'Espagne emprunte sur les marchés financiers à un taux autour de 6%. Mais les marchés financiers, c'est qui ? Les marchés financiers, c'est entre autres les banques. Et les banques, elles, non seulement elles ont le droit d'emprunter à la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais en plus elles le font à un taux d'ami, 1%. Je ne sais pas si vous avez ce taux-là chez votre banquier. Moi, non. Et ensuite, donc après avoir emprunté à 1% à la BCE, elles prêtent à l'État à 6%. Donc vous avez bien compris, l'État s'endette auprès des banques pour renflouer les banques. Plus précisément, l'Espagne a consacré 100 milliards d'euros, c'est-à-dire environ 10% de son PIB, son produit intérieur brut, au sauvetage des banques, alors même que les banques espagnoles possèdent 256 milliards de dettes publiques européennes. Cherchez l'erreur. La crise, finalement, c'est un marché assez juteux pour les banques, tandis que les citoyens espagnols payent l'addition. Hausse de TVA, baisse de salaire, baisse d'allocation chômage, et puis sûrement d'autres sacrifices à venir. Joanne va sûrement nous en parler en détail.
Je rajoutais juste un point à ton riche information, c'est qu'en fait, c'est lui qui dirigeait Bankia, c'est Rodrigo Rato, qui était vice-président du gouvernement Aznar, donc le gouvernement des droites d'il y a à peu près une dizaine d'années avant la période Zapatero. Donc, souligner quand même les passerelles entre les politiques et l'économique, et donc les marchés financiers, les banques notamment, qui est quand même un des éléments aussi clés et à dénoncer de cette crise qu'on nous impose. Donc, les politiques d'austérité en Espagne. Comme tu disais, donc Rodrigo Rato, qui était à la tête des banquiers, donc on a renflué toutes les banques, justement, qui ont participé à cette crise et qui détiennent maintenant une grande partie de la dette espagnole. Mais en plus, les caisses d'épargne, qui sont des banques, si on peut dire ça, à but social, c'est-à-dire c'est pas des entités lucratives, c'est des entités qui doivent réinvestir et ce qu'elles gagnent pour faire ils appellent ça des œuvres sociales. Ces statuts, il a été aboli et toutes les caisses d'épargne sont devenues des banques. Hein, elle n'était pas avant, c'est-à-dire tu pouvais aller demander un crédit dans cette caisse d'épargne, mais maintenant, les bénéfices, les profits étaient justement réinvestis pour des questions sociales, etc. Maintenant, c'est fini. Elles sont toutes à nouveau des banques d'investissement, des banques qui ont des actionnaires, qui font des profits, etc. Ça, c'est un des aspects importants, mais les politiques d'austérité, je vais peut-être passer à des questions très quotidiennes, au lieu de toujours parler des questions macroéconomiques, abstraites, etc. Je pense que c'est important parce qu'en France, on ne les voit pas. On ne voit pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et donc, ça c'est pas du. Je ne vais pas essayer de faire du populisme loin de là, mais je veux dire quand même ce qui arrive aux gens habituels, à ma famille, à mes amis, à d'autres. Quand on va en Espagne, ceux qui ont été entourés cet été, je ne sais pas s'ils l'auront vu, une des premières choses qu'on voit, c'est plein des bâtiments qui sont à mi-construction, c'est-à-dire qu'on se promène dans la rue, on se croirait dans un pays qu'on voyait avant, des pays qu'on voyait avant à la télé, c'est-à-dire des bâtiments qui sont complètement abandonnés, qui sont en pleine construction, et il n'y en a pas un ou deux, les rues en sont pleines. C'est une première chose qu'on voit. Deuxième chose qu'on voit, on voit des affiches à vendre et à louer partout. Il y a 6 ans, quand on voulait trouver un appartement, par exemple, à Barcelone, les prix étaient un peu supérieurs à ceux de Paris, en sachant quand même que les salaires moyens en Espagne, il est à peu près des 1 000, 1 100 euros. Okay? Donc un studio à Barcelone, il pouvait coûter 700 euros à louer, en location. Un appartement pouvait coûter justement à peu près entre 400 000 et 500 000 euros, un appartement de 70 mètres carrés. Je répète, les salaires ne sont pas comparables, ils sont à peu près la moitié des salaires parisiens en tout cas. Donc on voit plein d'affiches mano à vendre, à louer. On voit des gens, l'épicier qui était justement en face de la maison de mes parents, qui en profitant justement, en croyant hein, le discours officiel de la croissance inouïe de l'Espagne, du miracle espagnol, comme on disait à l'époque. Il a décidé de vendre son appartement, comme la plupart des gens faisaient, parce qu'on leur avait dit que justement, ils allaient demander un crédit, mais avec les prix des ventes de son appartement actuel, ils allaient acheter deux appartements. Donc, un pour eux et l'autre à vendre. Justement. Et avec ça, ils allaient justement récupérer, non seulement récupérer l'argent qu'ils avaient investi dans les nouveaux appartements, mais c'est faire du bénéfice. Parce qu'on leur avait dit que tous les 6 mois, les appartements prenaient entre 15 et 20% de leur valeur. Donc l'épicier en question, il a donc à 65 ans vendu sa maison habituelle. Il a acheté des appartements. La crise immobilière est arrivée. Et ce qui lui est arrivé, c'est justement qu'il se retrouve avec un appartement qu'il n'arrive pas à vendre. Donc, c'est lui qu'il voulait vendre justement pour financer les deux appartements qu'il avait achetés. Il ne peut pas vendre les deux appartements qu'il a achetés non plus. Et donc, il se retrouve à payer un crédit de deux appartements et à ne pas pouvoir vendre l'ancienne maison. Résultat des courses, il doit rendre les deux appartements à la banque pour essayer d'essuyer une partie de la dette qu'il a avec la banque, mais il continue à devoir de l'argent à la banque. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'appartement, mais en plus, il continue à payer les crédits qu'il engage à la banque. Ça, c'est habituel, non seulement chez l'épicier devant mes parents, sinon que beaucoup de jeunes rentrent à la maison de ses parents aussi, parce que justement, ils sont dans les mêmes cas. Il y a les immigrés, le cas des immigrés qui est un peu différent, beaucoup des latino-américains qui sont venus au moment de la croissance espagnole et qui, en achetant aussi des appartements, la crise immobilière arrivée, ils ont décidé de quitter les pays en laissant justement les appartements aux banques. Et avec un crédit qui va les poursuivre, j'imagine, dans leur pays, sauf qu'ils ont décidé de prendre la fuite et pas rester en Espagne. Autre chose, et j'en finis là avec les histoires concrètes, je me promène dans ma ville natale, qui est une ville de la banlieue de Barcelone, une ville sans histoire, une ville moyenne, hein, industrielle, commerciale, tout à fait normale. Et on peut retrouver en permanence des amis qui, justement, informaticiens, ingénieurs ou autres, qui te racontent qu'ils vont partir en Allemagne, aux États-Unis, en Argentine ou au Chili. Non, Argentine ou Chili, c'était vraiment des pays dont les citoyens venaient à Barcelone il n'y a pas longtemps. Donc c'est très commun qu'on rencontre des copains d'école qui te disent qu'ils vont partir dans les mois qui viennent justement travailler à l'étranger. Donc c'est peut-être des détails qui sont importants pour se rendre compte de ce que signifient donc les politiques d'austérité et la crise qu'on ne voit peut-être pas trop, en tout cas dans Paris.
Alors, ce que tu viens de décrire, c'est déjà la spécificité de la crise espagnole avec l'aspect immobilier, qui fait que c'est un peu un cousinage avec ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008, mais avec une bulle immobilière qui s'est vraiment nourrie d'elle-même pendant des années et des années, et qui a explosé d'un coup, c'est ça ?
C'est juste.
Et alors, en fait, les libéraux en profitent pour faire passer l'austérité et ratisser complètement la population espagnole.
C'est ça.
Et je crois que c'est non seulement au niveau financier, avec la TVA dont tu parlais tout à l'heure, qui d'ailleurs est une catastrophe, comme Attaque le dénonce, parce que ça va réduire encore la consommation et bloquer encore la croissance, mais ce sont aussi des paravents par rapport à des politiques qui sont des politiques de la droite traditionnelle espagnole, qui visent à faire re-rentrer l'ordre moral que le gouvernement précédent, s'il n'était pas exempt de défauts au niveau financier, au niveau économique, avait quand même bien modernisé l'Espagne. Est-ce que tu as quelque chose à nous en dire ?
Alors, un des avantages, si on peut dire ça, du gouvernement Zapatero, c'est justement, je ne sais pas si c'est tous les gouvernements, les social-démocrates contemporains, en tout cas en Europe occidentale, il a misé, et c'est très bien, sur l'ordre moral, c'est-à-dire il a misé sur les mariages gays, il a misé sur l'adoption des couples gays et homosexuels en général.
Mais enfin, on ne peut pas être gay quand c'est la crise, c'est pas sérieux.
Donc il a misé sur ça et justement il a fait avancer des mœurs qui étaient un peu pas forcément arriérées parce qu'ils sont dans beaucoup des pays, ils n'ont pas encore changé, notamment je pense en France, ça fait pas très longtemps où je pense que les couples homosexuels ne peuvent pas encore adopter des enfants, si je ne me trompe pas.
L'année prochaine.
Voilà. Donc il a beaucoup joué là-dessus, il a beaucoup avancé, c'est très bien. Par contre, je répète, au niveau économique, écologique, c'est un désastre. La bulle immobilière existait bien avant Zapatero, mais il y a vraiment pas touché du tout, au contraire. Hein, ça a été pendant les années Zapatero, ça a été des fortes croissances de la bulle immobilière. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Donc, les gouvernements actuels, évidemment, les politiques, la crise, hein, les langages techniques compliqués que personne ne comprend sur la dette, les intérêts, les agences de notation, toutes ces affaires-là qui sont un peu complexes à comprendre. C'est vraiment une porte d'entrée pour les politiques d'austérité, donc pour finir avec les acquis sociaux. Sauf qu'on a les problèmes que c'est un gouvernement des droites. Donc, les gouvernements des droites, comme on sait d'habitude, ils ne s'attaquent pas qu'à l'économique, mais souvent l'ordre moral, ça les gêne un peu aussi. Donc, effectivement, on a un ministre de la Justice qui s'appelle, ça va venir, qui est justement un fils d'un ex-ministre franquiste. En Espagne, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans les hautes sphères politiques qui sont descendants des ministres et des membres du franquisme. Il a décidé justement d'échanger la loi sur l'avortement. Et donc, jusqu'à présent, c'est une loi assez progressiste, c'est-à-dire que les femmes pouvaient justement décider de leur corps, comme on dit, et pouvaient décider de faire des avortements. Lui, il veut revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on puisse avorter juste dans des cas très précis, mais ils sont tellement précis que justement, il veut même annuler les faits ou interdire l'avortement pour des raisons des malformations de l'enfant, comme c'était vraiment un des cas qui était permis pour la femme, sous prétexte justement que c'est un assassinat, c'est un assassinat justement, tout simplement. Donc, il veut juste laisser les raisons médicales. Mais toutes les restes des circonstances seront justement interdites pour avorter en Espagne. Donc c'est vraiment une loi très régressive à ce niveau-là.
Alors un autre symbole très fort, surtout quand on se rappelle des siècles passés et des premières luttes sociales, ce sont les mineurs espagnols qui sont en grève et qui d'ailleurs participent de manière active dans le mouvement actuel de protestation.
Alors les mineurs espagnols, c'est les mineurs et les pompiers, on peut dire ça, mais bon, je sais pas si on aura le temps. Alors les mineurs espagnols ont participé justement, ils avaient un accord avec le gouvernement socialiste pour continuer avec les subventions qu'ils recevaient pour l'exploitation des mines, et le gouvernement actuel a décidé de couper avec ces subventions-là et donc de fermer une grande partie des puits qui existent en Espagne. Donc ils sont en grève pour dénoncer justement l'illégalité de cette décision qui était déjà entamée avec le gouvernement et entérinée par le gouvernement intérieur. Et donc, ils ont fait une marche qui est arrivée jusqu'à Madrid pour protester contre ça.
Alors, on va faire un saut à travers l'Atlantique pour aller écouter une des grandes chansons de souvenir des luttes et du quotidien des mineurs au Chili avec Victor Jara, Te Recuerdo Amanda.
Donde trabajaba Manuel.
Vous êtes sur FPP 106.3, émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des militants d'attaque et des journalistes du PIAF.
Alors l'actualité économique, c'est donc le pacte budgétaire qui doit être signé prochainement par tous les pays d'Europe et la France en particulier. Et une campagne éclair vient d'être lancée dans le milieu d'opposition, c'est-à-dire à gauche du Parti Socialiste, hein, c'est très clair, pour protester contre la signature de ce traité. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Tout d'abord, pour une question d'honnêteté, Hollande et son Premier ministre nous parlent aujourd'hui de dette publique, de remboursement, bref, d'austérité sans vouloir le dire. Et le traité budgétaire, le pacte budgétaire, lui, en est tout à fait l'expression au niveau européen. Alors il y a 10 points qui peuvent être mis en avant pour contester ce traité. Le premier, bon, c'est d'abord les conséquences, hein, c'est que pour respecter un traité budgétaire, c'est-à-dire respecter de ne plus faire de déficit avec une promesse de déficit zéro en 2017, c'est-à-dire demain, il faut déjà commencer à faire des économies et les coupes sont injustes et totalement inefficaces. Les coupes injustes, on en a parlé au début de l'émission, dans l'éducation, dans le milieu de la culture.
C'est pas seulement injuste, c'est contre-productive.
Et c'est contre-productif, elles sont désastreuses. En voulant réduire le déficit à 3% du PIB pour atteindre ce déficit-là, ils vont aggraver, et on le voit déjà, récession, chômage, le FMI, donc ce grand organe qui annonce toujours les bonnes nouvelles, annonce que 300 500 000 emplois seront de seul fait détruits dans l'année 2013, rien que par les économies budgétaires au niveau de l'État. Un deuxième point qui est très net aussi, c'est qu'on augmente les impôts, mais sans trop effrayer les riches. Hein. On le voit bien, l'objectif, c'est d'augmenter les impôts pour les classes moyennes et d'essayer de récupérer de l'argent sans véritablement aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus fortunés. Évidemment, au niveau de l'austérité, tous les moyens sont bons pour lancer des mesures de soi-disant de compétitivité, donc détricotage complet du droit du travail. C'est beaucoup plus de précarité, beaucoup plus d'inégalité, encore une fois de contre-productivité aussi, parce que la précarité entraîne des frais médicaux, entraîne des, si on veut continuer, je l'espère, à assister toutes les personnes en difficulté. Ça entraîne aussi une compétition au niveau européen complètement absurde entre les pays. Tout le monde va essayer de faire descendre progressivement son droit, ses droits sociaux pour cette soi-disant compétitivité. Au nom de quoi ? Au nom de la fameuse règle d'or, c'est-à-dire un indicateur totalement absurde, ce déficit zéro qui n'a finalement jamais existé dans l'histoire.
Qui ne sert à rien. Parce que dans des campagnes précédentes, ATTAC et bien d'autres associations ont bien mis le point là où ça faisait mal, c'est qu'il n'y a pas de problème de la dette. Le problème n'est pas d'être endetté, c'est de savoir si c'est de la bonne ou de la mauvaise dette. Si les États font des dettes pour créer de l'emploi ou s'ils font des dettes simplement pour alimenter les banques. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est de la mauvaise dette. Et c'est pas la politique d'austérité de la règle d'or qui va changer la mauvaise dette.
En d'autres termes, on n'a jamais vu un pays être à déficit zéro. Il y a toujours eu un emprunt et c'est même le système économique qui est basé là-dessus. Or, aujourd'hui, ce système devient une austérité à perpétuité parce qu'on s'oblige à toujours être austère, jamais pouvoir profiter de la productivité d'un pays pour pouvoir vivre mieux. Et ce, en bafouant totalement la démocratie. Rappelons-nous, en France comme en Irlande, le refus du traité européen qui revient aujourd'hui sans gros changement finalement par la petite porte. Alors évidemment on parle du fameux pacte de croissance hein, qui a été paraît-il voté cet été. Enfin j'ai l'impression qu'on en parle qu'en France. Dans les autres pays ils n'ont pas dû remarquer qu'il y en avait un.
C'est la même chose que les emplois dans l'éducation nationale où on met 21 000 emplois en avant dans les déclarations et en fait c'est simplement le remplacement des départs en retraite. Le pôle pacte de croissance du traité, c'est juste changer le nom, l'appellation de fonds qui était déjà prévu. Donc oui, on peut appeler ça pacte de croissance ou de n'importe quel nom, c'est des sommes qui étaient déjà réservées par l'Union européenne.
Voilà, donc il y a plusieurs points. Alors si vous voulez plus vous informer, allez sur le site d'ATTAC. On vous propose d'ailleurs d'interpeller vos députés. Donc le site c'est pacte-budgétaire.org ou tout simplement sur le site france.attaque.org où vous avez tous ces renseignements. Et si vous voulez même protester dans la rue, le 30 septembre prochain, il y a une grande manifestation pour protester contre ce signature du pacte budgétaire. Alors si vous voulez rejoindre aussi les indignés, il n'y en a pas qu'en Espagne, il y a un mouvement indigné qui existe en France et qui se réunit, je crois, les vendredis, d'ailleurs, en ce moment.
Il s'est réuni plutôt les dimanches.
Ah.
L'Assemblée Générale, c'est les dimanches.
Alors, si on veut y aller justement dimanche, c'est où et à quelle heure ?
Alors, vous pouvez trouver toutes ces informations, c'est plus simple, parce qu'en fait, on essaye de déplacer l'Assemblée Générale pour pas rester justement dans un quartier, et que tous les citoyens qui veulent venir puissent venir. Donc, il faut aller sur les sites parisreeldemocratie.net. Et là, il y a une agenda où vous trouvez toutes les informations, dont, entre autres, tous les comptes rendus de toutes les réunions et assemblées et groupes de travail des indignés de Paris.
Alors, on attaque l'agenda pour terminer. Boris, ce week-end, il y a...
La fête de l'humanité du 14 au 16 septembre 2012. Au parc de la Courneuve, tous les détails sur fête.humanité.fr.
Merci Gaël. Le dimanche 16 septembre au cinéma L'Escurial, vous pouvez voir le dernier film de Pierre Carle qui s'appelle DSK Hollande, etc. Rassurez-vous, on ne va pas parler de Dominique Strauss-Kahn, mais plutôt de comment les grands médias aiment ces grands personnages absolument ridicules.
Mercredi 19 septembre à 19h à la Maison des Métallos, donc au 94 rue Jean-Pierre Timbaud, vous avez justement des débats et des projections autour du mouvement des indignés tout au long de la planète.
Alors, le 19, mais une heure plus tard, à 20h au CICP 21 Terre rue Voltaire, Paris 11e, vous avez un inventaire avant liquidation suivi de putain d'usine. C'est une projection débat en présence du réalisateur Rémi Ricordo.
Le mardi 25 septembre à 20h au foyer de Grenelle, 17 rue de Havre, Paris 15e, ATTAC Paris 15e vous invite à une conférence débat avec Frédéric Vial, membre du conseil d'administration d'ATTAC, autour du pacte budgétaire européen, l'austérité perpétuelle.
Et on revient en Espagne, à Madrid, une rencontre européenne sur la dette, les droits et la démocratie. C'est du 27 septembre au 30 septembre. Renseignements sur 99agora.net.
Le Festival des Utopies Concrètes, Festival de la Transition et de la Permaculture, aura lieu du 27 septembre au 7 octobre à Paris et un peu en Ile-de-France. Vous pouvez aller voir Salle Gendarme au Centre Sportif Gendarme, 17 rue Léopold Bélan à Paris.
Et les dimanches 30 septembre, une grande manifestation pour dire non à l'austérité permanente et pour dire non au pacte budgétaire dont on parlait tout à l'heure. L'heure et le lieu sont encore à déterminer.
Et pour finir, une histoire de la Révolution française, pour sortir de la dichotomie habituelle entre l'historiographie de gauche et l'historiographie de droite, Éric Cazan propose une nouvelle histoire de la Révolution française, et vous pouvez le rencontrer et avoir un débat le vendredi 5 octobre à 20h à l'atelier 2 bis rue du Jourdain, Paris 20e.
L'émission se termine, on remercie notre invité Joanne Cortinas, et on remercie Jean-Marc, Boris, Gaël et Sylvain et Claude à la technique. On se quitte en écoutant Tribeca, Donde Estas Rosa.